Carrefour.
Quand vous me dites
Carrefour baisse ses prix.
Oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon féculents, conserves et animalerie. Comme le pack de 8 sachets de pâté pour chat stérilisé Purina One qui passe de 5,13€ à 3,99€, soit 22% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
8 x 85g, prix baissé à compter du 17 juin 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détaillez liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, c'est encore un gros sommaire qui nous attend aujourd'hui dans l'émission. On va passer 3 heures ensemble jusqu'à 15 heures avec aujourd'hui Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
Il vient tout juste de rentrer d'un long week-end. C'est Pierre Rondeau. Ça va Pierre?
Je suis totalement décalqué, déphasé. Je peux vous dire que j'ai dormi 2 heures.
Oui.
Donc bon, essayez d'être très productif.
Enfin, vous êtes jeune.
Oui. Merci.
De moins en moins. Mais
de moins en moins, donc c'est vrai que je suis de plus en plus fatigué, mais ça va aller, ça va aller. Je suis très content d'être là.
Écoutez,
retire ta veste.
Nous sommes également avec la journaliste de l'Incorrect, Juliette Briens. Bonjour Juliette.
Bonjour. Et moi aussi, j'ai dormi 2 heures, c'est juste parce que je suis vraiment beaucoup trop sur Twitter.
Il se passe beaucoup trop de choses. Ça n'arrête pas. Et puis, Fred Hermel, journaliste et écrivain, ça va Fred?
Bonjour Estelle. Je trouve Pierre très élégant aujourd'hui, très jolie veste.
Vous voyez que j'ai mis la veste de Fred Hermel. Voilà.
D'accord.
J'étais en chemise à moyenne.
Au sommaire, aujourd'hui, dans Estelle Midi, les sondages qui donnent le RN et la gauche au coude à coude pour les législatives. La France va-t-elle devenir ingouvernable? On attend vos avis, vos réactions au 32-16. On va parler des législatives avec cette question à midi et demi. Faut-il dire à ses collègues pour qui on vote? Voilà. Est-ce qu'on doit connaître nos opinions politiques au bureau? À 13h, 6 Français sur 10 en faveur d'une réduction des aides sociales. D'accord, pas d'accord. 13h30, ce sera le zapping, le meilleur des RMC. À 14h, l'Union européenne qui va surtaxer les véhicules électriques chinois. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? RMC Conso, ce sera à 14h30. On parlera des pénuries de produits dans les rayons des supermarchés. On va vous dire ce qui vous attend. Et puis, Rémi, on vous offre de très belles places pour l'Euro 2024.
Ouais, l'Euro 2024 qui va débuter chaque jour. RMC vous envoie en Allemagne pour assister à tous les matchs de l'équipe de France. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Leipzig, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match et ensuite vos deux places pour France-Pays-Bas, match qui se jouera le 21 juin. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Cette alerte, elle peut tomber à tout moment et vos places pour France-Pays-Bas, elles se gagnent uniquement sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est ce sondage paru hier qui donne le RN vainqueur des élections législatives avec 31% des votes, juste devant l'Alliance de gauche 28%. Le parti de la majorité présidentielle est loin derrière. On s'achemine donc, Rémi, vers un énorme casse-tête si les scores en restaient là.
Ouais, les Français semblent avoir l'intention en tout cas de confirmer leur vote sanction des européennes. Ça, c'est ce qu'il ressort d'une enquête Elab pour la Tribune Dimanche et BFM TV. Le Rassemblement National est crédité de 31% des intentions de vote contre 28% pour l'Alliance de gauche, 18% pardon, pour le Bloc Renaissance et ses alliés. Les LR tomberaient à 6,5%, Reconquête à 4%. Pour ce qui est de la participation, elle serait en hausse à 57% des personnes interrogées qui se disent prêtes à aller voter, sûres et certaines d'aller voter, et 10% l'envisagent sérieusement. Dans ce contexte, les projections en sièges donneraient une fourchette de 220 à 270 sièges de députés pour le RN, de 150 à 190 pour l'Alliance de gauche, le Nouveau Front Populaire, de 90 à 130 élus pour les macronistes et de 30 à 40 pour LR, le RN, bien que largement en tête en nombre de députés. Je le rappelle, de 220 à 270 selon ses projections, n'obtiendrait donc qu'une majorité relative à l'Assemblée, puisqu'il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue, pour gouverner et faire voter des textes. Il serait donc nécessaire au RN de trouver des soutiens dans d'autres camps politiques. C'est loin d'être évident.
Alors la France va-t-elle devenir ingouvernable, Fred Hermel?
Elle est déjà. Elle est déjà depuis la dernière législative.
On est à 250 députés de la majorité présidentielle aujourd'hui.
Voilà, on a bien vu que pour certaines lois, il a fallu utiliser abondamment le 49-3, que la réforme des retraites est passée grâce à cela, il y a une motion de censure rejetée, etc. Donc, mais c'est aussi le piège de la gouvernance d'Emmanuel Macron. ou de la présidence et des gouvernants choisis par Emmanuel Macron, le en même temps, finalement, a empêché qu'il y ait une ligne claire derrière pour rassembler une majorité. C'est-à-dire que une majorité, il est possible de gouverner avec une majorité relative. Il suffit de faire au coup par coup une coalition sur certains textes, etc. Mais à partir du moment où le lundi, ce parti dit une chose, le mardi il change d'avis, mercredi, etc. Finalement, les gens n'ont jamais vraiment su pour qui elle est. Moi, je pense sincèrement que on aurait pu éviter ce chaos si le parti au pouvoir s'était allié avec les LR. C'était facile en fait. C'était assez simple.
Les LR n'étaient pas très fans. Hein.
Mais franchement,
franchement
sur certains textes, c'était possible. Franchement, s'il y avait une possibilité, on n'en serait pas là. Mais le problème, c'est que la ligne n'a jamais été claire. Le en même temps, ça ne fonctionne pas.
Et non. C'est pour ça que tout le monde est déçu.
Ben, oui, voilà, c'est pour ça. Bah ben, oui, parce que tu ne contentes personne. Donc oui, c'est déjà ingouvernable. Donc finalement, moi, je trouve que ce chaos actuel va peut-être déboucher vers une vraie majorité avec des idées qui semblent aujourd'hui assez claires de chaque côté. Et que les gens puissent décider en conséquence, quoi. Mais pire que maintenant, de toute façon, c'est bloqué. Donc, autant essayer de débloquer d'une manière ou d'une autre.
Pierre Rondeau, vous êtes inquiet par rapport à ce qui se passe, justement, au fait que, si ça se trouve, les trois prochaines années, il va rien se passer, justement.
Je suis aussi inquiet d'avoir l'extrême droite aux portes du pouvoir. Je suis aussi inquiet d'avoir probablement un Premier ministre pour la première fois de l'histoire de la République française, d'un membre d'un parti d'extrême droite. C'est plus mon inquiétude.
Tu peux aussi avoir un ministre d'extrême gauche. Hein.
Je ne mets pas sur le même pied d'égalité le Front populaire avec ce qu'est le RN, tant pour son histoire que pour sa ligne programmatique. Maintenant, sur la question de gouvernance, mon inquiétude, elle se porte plutôt sur qui sera au pouvoir. Est-ce qu'il pourra gouverner, si, admettons qu'elle soit Jordan Bardella, comme le disent les sondages, s'il peut gouverner, alors toutes les cohabitations, on en a eu dans l'histoire, hein, et on a la dernière avec Jospin Chirac, la France a été gouvernée, et d'ailleurs a été bien gouvernée. Chirac a fait preuve de mansuétude et de calme avec son premier ministre de l'époque, de Jospin, pardon. Donc, il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de ralentissement, il y a eu une réussite, j'irais à ce niveau-là, et moi, j'étais jeune à l'époque et je me souviens que cette cohabitation était plutôt un succès, tant populaire que politique. Il y a une possibilité. Maintenant, je rejoins effectivement ce que dit Fred sur la boussole macronienne. Quelle est la boussole de la Macronie? Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui, en 2017, va venir récupérer d'anciens élus, d'anciens députés de la gauche, qui se fait passer pour quelqu'un qui est à la fois ni de droite ni de gauche, mais aussi de gauche et de droite. Un centrisme de gauche, un centrisme de droite. Il y a une boussole, on sent quelque chose. Il a écrit un bouquin en 2017 qui s'appelait Révolution. Il voulait vraiment faire la révolution, révolutionner le champ social de la France.
Là, on assiste à une révolution.
Et là, maintenant, comme le dit Fred, nouvelle boussole, nouveau cadran, il va aller draguer la rhétorique, la sémantique de la droite. Il va directement proposer à des députés républicains de s'allier à lui. Donc d'un côté, il est à gauche, après il est à droite. Et effectivement, c'est ça l'absence de gouvernance qui a lieu avant cette probable cohabitation. C'est cette incapacité pour la Macronie à créer des alliances tant à la fois avec le PS, avec la gauche, qu'avec les républicains. Oui. On est républicain, on voit Emmanuel Macron nommer des ministres, des députés anciennement socialistes, et après il vient draguer les républicains. Donc il y a une problématique à ce niveau-là. C'est l'absence de boussole qui fait que les conséquences actuelles sont dues à 7 ans de gouvernance.
Enfin, je rappelle également que Emmanuel Macron n'était pas obligé de convoquer les législatives anticipées, de dissoudre.
Si on va au-delà de la question...
Encore une fois, là, on aurait pu rester comme ça encore 3 ans.
La dissolution qui, à mon sens, et ce débat a déjà eu lieu ici, mais à mon sens, c'est une folie absolue et on doit faire avec maintenant.
Il n'était pas obligé. Il a donné ses raisons hier, mais je veux dire, il n'était pas obligé de le faire. Est-ce que vous pensez, Juliette Briens, que Emmanuel Macron, qui a réfuté l'idée d'une démission, qui était un petit peu dans l'air ces derniers jours, même s'il est troisième, et il y a quand même de très très fortes chances qu'il soit troisième avec un score absolument calamiteux, est-ce qu'aujourd'hui un président de la République peut gouverner en étant troisième très loin derrière deux formations politiques?
Non, ça me paraît extrêmement compliqué. Évidemment, Emmanuel Macron dit que la démission n'est pas sur la table, mais enfin la dissolution ne l'était pas non plus, et on a vu ce que ça a donné. Donc évidemment que la démission d'Emmanuel Macron est une possibilité en cas d'absence de majorité. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Nous le verrons. En tout cas, je pense que pour lui, ce sera en tout cas un plan à long terme pour peut-être revenir plus tard, dans 5 ans, après une possible arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. En tout cas, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Fred Hermel. Le pays était déjà immobile. On sort, pour moi, de 7 ans de marasme et d'immobilisme total des centristes. Pourquoi il n'a pas réussi à gouverner avec une majorité relative? Parce que au bout de 7 ans, en fait, il a transformé
toute mesure, même toute loi contre des référendums anti-Macron. C'est que les LR, parce que évidemment, chez LR, il y a deux LR. On le sait, on est très bien, on le voit aujourd'hui. Il y a ceux qui n'avaient aucun problème, effectivement, à faire des alliances avec Emmanuel Macron. Et il y a ceux qui écoutent leurs militants.
Ouais, et qui n'ont aucun problème à faire une alliance avec le RN.
Et qui n'ont aucun problème, exactement, à faire des alliances avec le camp national, dont ils partagent, évidemment, la majorité des idées. Ce qui est également aussi le cas des grands barons de LR qui, aujourd'hui, sont en train de faire un putsch. Mais ça, ils ne le font
pas du tout les mêmes idées sur le plan économique, par exemple. Non, on a d'un côté des libéraux et d'autre côté.
Mais c'est pour ça que cette alliance, donc c'est pour ça que cette alliance, elle a été très claire entre Jordan Bardella et Éric Ciotti. Ils se sont donné trois grandes lignes, l'immigration, l'insécurité et le pouvoir d'achat. Et à partir de ces trois grandes lignes, ça va être le programme de leur campagne. Ils ont des divergences, oui, mais ils partagent majoritairement leurs idées. Et tous ces
Le point économique du RN est beaucoup plus proche de celui des LFI.
Mais c'est ce que je viens de dire, on sait très bien.
Que de LR.
Donc tous ces barons putschistes là de LFI, on sait très bien ce qu'ils pensent en privé. Simplement, ils n'ont aucun courage et aucune volonté pour leur pays aujourd'hui. Ils préfèrent faire des alliances avec celui qui nous a menés ici aujourd'hui, plutôt que d'avoir le courage d'assumer au grand jour leurs opinions.
C'est gouvernable ou c'est ingouvernable?
Ah avec une majorité absolue, c'est gouvernable.
Mais il n'y aura pas de majorité absolue.
Je ne sais pas ce qui va se passer.
Non, mais il n'y a pas de majorité absolue pour l'instant.
Comment ça?
Après, oui,
on ne sait pas ce qui va se passer là à l'issue des législatives.
Mais on ne s'achemine pas vers une majorité absolue.
C'est pas sûr, c'est en deux tours.
Là, vous regardez. Excusez-moi, Pierre. En fait, là, vous regardez les sondages du premier tour. Déjà, il ne compte pas la pseudo-alliance de droite qui est en train de se créer, etc.
C'est sûr que les projections qu'on doit donner.
Oui, et ensuite, les circos gagnés par la coalition de droite face à celle de la coalition de gauche, vous savez très bien qui est-ce qui va remporter. Hein. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'on s'éloigne d'une majorité.
Je ne sais pas.
Tu pars avec comme hypothèse qui est cette fameuse coalition droite entre LR et RN. Pour l'instant, il n'y a qu'Éric Ciotti qui a signé cette coalition. Beaucoup de barons républicains qui l'ont refusé.
Reconquête est mort, ça fait déjà 5% de plus.
Si tu n'es pas d'accord avec ce type parti, tu vas voter directement LR.
Oui, mais Reconquête est mort, ça fait déjà 5% de plus. Et 50% des électeurs LR sont d'accord pour l'alliance.
D'accord, mais dans l'idéologie même, hormis ce que dit Fred sur un électeur lambda qui serait républicain, mais qui serait plutôt RN, qui l'assume.
Qui l'assume.
Mais LR, je suis désolé, LR, c'est le libéralisme. LR, c'est l'ouverture.
Comment qu'ils ont hiérarchisé leur sujet.
Non mais d'accord, mais
c'est quand même important.
Si quelqu'un,
c'est
un
électeur, pareil pour la gauche, ils n'ont pas les mêmes idées.
Si un électeur dit je suis pour le protectionnisme, je suis pour l'interventionnisme, je ne peux pas me prétendre républicain. Impossible. Le républicain est libéral internationaliste. Oui, il est mondialiste.
T'as pas compris que c'est pas ça le sujet. Je crois
pas. Il ira voter RN. Il n'y aura pas de coalition.
Je voudrais juste qu'on prenne en ligne Wilfried qui nous appelle de Montauban et qui voulait réagir sur ce débat. Bonjour Wilfried.
Bonjour toute l'équipe.
Et merci beaucoup d'être avec nous, Wilfried. Est-ce que pour vous, la France va être ingouvernable dans 3 semaines?
Alors je reprends ce qu'a dit Fred Hermel tout à l'heure, elle l'est déjà pour moi. Elle est ingouvernable à partir du moment où il n'y a pas de majorité absolue, il y a une majorité relative qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur des sujets clés avec d'autres partis politiques. Elle l'est déjà. La gouvernance se fait à coup de 49-3 ou de décret. Et ma crainte, c'est que non seulement elle ne va pas l'être pour les 3 prochaines années, mais elle risque de l'être même un petit peu plus durablement. De par le système politique, Macron a fait voler en éclats les deux blocs de gauche-droite précédents en allant taper assez large et ces blocs n'existant plus. On va avoir un morcellement, ça a été présenté tout à l'heure au niveau des projections, alors effectivement, en l'état actuel, mais des projections de représentation nationale. On va vers quelque chose qui ne dégagera pas de majorité absolue et peut-être même, hormis le bloc de droite, une majorité relative plus faible que ce qu'elle n'est actuellement.
Exactement, et ça risque de rendre le pays encore plus ingouvernable que ce qu'il n'est. Merci Wilfried en tout cas d'avoir été avec nous. On a des messages sur la Pierre MC Rémy.
Bon, dans le même sens, message de Grégory qui nous dit la France est-elle gouvernable depuis la réélection d'Emmanuel Macron, depuis les dernières législatives? Nous sommes gouvernés à coup de 49-3. Moi je n'appelle pas ça une démocratie. Quand allons-nous taper dans la fourmilière? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai peur d'une France ingouvernable. Voilà ce que nous dit Grégory.
Notre invité sur ce débat, c'est Arnaud Benedetti, auteur de « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » aux éditions du CERF et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud.
Bonjour à vous.
Et merci d'être encore avec nous dans Estelle Midi. Bah oui, vous êtes là tous les jours parce qu'avec tout ce qui se passe, Arnaud, effectivement, on est ravis de vous avoir. On est en train de se demander si la France va devenir ingouvernable. On se rend compte qu'elle l'est peut-être déjà. Je sais pas si vous m'entendez, Arnaud, mais...
Oui, je vous entends.
Mais concrètement, comment Emmanuel Macron, s'il ne démissionne pas, va-t-il faire pour gouverner après les élections législatives?
Bah, d'abord, tout dépend de ce que sera le résultat du vote, parce que en effet, il y a une hypothèse dont vous avez évoqué la possibilité, c'est le fait que, du fait du fractionnement du champ politique aujourd'hui, on se retrouve en effet au soir du 7 juillet sans capacité à former une majorité susceptible de porter un gouvernement, ce qui serait quand même dans l'histoire de la Ve République quelque chose de tout à fait inédit, atypique. Ce serait un accident institutionnel majeur, parce que je rappelle quand même une chose, c'est que quand le général de Gaulle et Michel Debré vont écrire la constitution de la Ve République, ils la rédigent parce qu'ils veulent une république qui permet d'assurer des majorités stables, et des majorités stables pour gouverner, parce qu'ils sont... Ils ont connu l'histoire de la Troisième et de la Quatrième République avec l'instabilité parlementaire, gouvernementale que l'on connaissait et qui ne permettait pas de surpasser les crises. Là, quelque part, on se retrouverait en effet dans une configuration tout à fait exceptionnelle. Et donc, quand même, le président de la République porterait la responsabilité exclusive. La question, quand même, là, de son maintien au pouvoir pourrait se poser, en tout cas, serait posée inévitablement par un certain nombre d'acteurs oui. politiques.
Bon, Bruno Le Maire en a parlé chez Apolline de Malherbe avant-hier en disant que il y avait quand même une crise politique majeure qui se profilait, quoi.
Ah ben là, c'est plus qu'une crise politique. C'est-à-dire, déjà, on est dans une crise politique. Là,
c'est une crise de régime.
On rentrerait dans une crise institutionnelle. Donc là, c'est une possibilité. Mais bon, après, il y a quand même, il y a d'autres hypothèses. Il peut y avoir d'abord une majorité relative. Alors, si le Rassemblement National obtient une majorité relative, avec qui va-t-il gouverner? Parce que ça va être quand même difficile. Vous savez, une majorité relative sous la cohabitation, c'est complexe.
Surtout qu'ils n'ont pas de réservoir de voix ailleurs.
Alors, après, vous savez, il faut toujours jurer de rien en politique. Hein, mais bon, il y a des choses qui peuvent arriver et que l'on n'attend pas. On a vu des LR se rallier à Emmanuel Macron le lendemain de son élection en 2017. Hein, donc, vous savez, le pouvoir, je veux dire, peut attirer. C'est vrai que ça sera compliqué. Alors, ils peuvent avoir une majorité absolue. Ce qui ne me paraît pas fortement probable à ce stade, mais il y a quand même... Ils ont quand même la dynamique pour eux, hein, de toute façon. Hein. Ils ont la dynamique sociologique et ils ont la dynamique électorale. Vous savez, moi, j'ai mené une enquête puisque vous avez cité tout à l'heure un livre qui n'est pas mon dernier livre. Mon dernier livre, c'est justement sur la possibilité de l'accès du Rassemblement National au pouvoir.
D'accord.
Et j'ai donc enquêté, j'ai beaucoup travaillé et interviewé beaucoup de responsables du RN, en l'occurrence. Eux, ils considèrent, au regard de l'expertise quand même qui est la leur en termes de cartes électorales, ils considèrent qu'ils peuvent placer à peu près 400 candidats au second tour de l'élection présidentielle. Ce qui serait énorme. Mais enfin, quand vous regardez le sondage IFOP, il est à 35%, c'était le score du Parti Socialiste en 1981. Ils avaient obtenu une majorité absolue.
D'accord.
Mais sauf qu'une élection législative, si vous voulez, c'est 577 élections.
Complètement.
Et on vote tous, nous. Hein, donc on connaît, surtout quand vous êtes dans des circonscriptions en province, des circonscriptions rurales, vous connaissez, il y a des facteurs locaux qui jouent, il y a des facteurs de visibilité, de notoriété, vous connaissez ou pas le député, il y a des rapports de force.
Il y a des enjeux régionaux.
Tout ça crée des aléas. Hein,
bien sûr.
C'est pas mathématique.
D'accord.
Mais bon, en tout cas, il y a aussi cette possibilité. Dernière possibilité, peut-être qu'Emmanuel Macron peut considérer qu'il va réussir, en tout cas c'est ce qu'il va tenter de faire, après l'élection, de créer un gouvernement d'union nationale, évidemment sans les extrêmes, sans le RN et sans la France insoumise.
Bah c'est compliqué parce que la France insoumise, ils font partie du front de gauche, donc maintenant.
D'après ce que je crois comprendre, c'est que les discussions sont compliquées. Hein,
elles sont compliquées, mais elles vont aboutir quand même.
Hein. En principe, mais enfin bon, on ne sait jamais là aussi. Il peut peut-être essayer de constituer quelque chose avec, si vous voulez, quelques députés socialistes, quelques députés écologistes.
Avec Raphaël Glucksmann.
Voilà, éventuellement avec quelques LR qui pourraient être élus. Mais tout ça reste quand même très hypothétique.
C'est très hypothétique. Je suis d'accord.
Les deux probabilités, à mon avis, les plus fortes.
Oui.
Mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal.
Oui, non,
c'est,
assez, quand même une majorité relative pour le Rassemblement National.
D'accord.
C'est quand même eux qui ont la dynamique, me semble-t-il. Et puis, en effet, la difficulté à ensuite, s'il n'y a pas de majorité relative, d'ailleurs, ça serait pire pour le président de la République. Hein.
Ben oui, parce que
le président de la République a intérêt à ce qu'il y ait quand même une majorité.
Ben
même
évidemment,
une majorité relative avec le Rassemblement
national. Ben oui, sinon ça va être pire. Enfin, on sent bien quand même que voilà. Les choses vont devenir extrêmement compliquées après le 7 juillet et comme ce scrutin est ô combien important. Merci beaucoup à Arnaud Benedetti. On va terminer avec Yann Boucher-Charcutier à Anduze. Bonjour Yann.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous êtes inquiet par tout ce qui se passe, Yann, et par le fait que la France risque d'être ingouvernable?
Mais elle l'est déjà, de toute façon, ça a été dit plusieurs fois sur votre antenne, elle l'est déjà ingouvernable. Mais là, par contre, je pense que, comme il y aurait une bonne dynamique pour le Rassemblement National, et croyez-moi, la soupe est tellement bonne que tous les LR et tout ça, il y en a plus d'un dans leur petit secteur, dans leur circonscription et tout ça, qui vont de toute façon marcher. Et la seule chose qu'il faut voir, c'est que même si les barons, parce que là, on voit des présidents de région, on voit des sénateurs et tout, qui sont absolument pas concernés, qui font les vierges farouché pour l'instant. Ce qui décide à la fin, c'est les Français qui vont aller voter.
C'est vrai.
Je pense qu'on aura une belle surprise parce que les gens vont aller voter beaucoup plus que ce qu'on pense pour ces législatives. C'est ce qu'ils attendent. Mmh. Et puis, il faut arrêter aussi, là, tout à l'heure, Pierre Rondeau a dit entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il faut faire la différence et tout ça. Je pense pas que si on prend des trucs historiques comme ça, que le socialisme ait moins de morts que l'extrême droite. Donc maintenant,
ouais,
il faut arrêter avec ça.
Mmh. Il faut arrêter avec ça.
Ben oui, ben l'extrême droite.
Oui, mais je l'ai jamais dit, Yann, pas la peine d'en parler.
On va parler de droite nationaliste, on va parler d'une gauche républicaine. Donc il faut.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Voilà. Mais pour l'instant, le Mélenchon, il a déjà été au pouvoir parce qu'il a déjà été ministre, il a rien changé. On les a tous essayés. Donc, on risque d'avoir de grosses surprises et je pense que le Rassemblement National risque d'avoir une majorité plus que...
Ah bah écoutez, on verra. Là, pour l'instant, ce ne sont que des projections. Et c'est vrai que les projections, elles sont très difficiles à faire, notamment en raison des triangulaires qui peuvent avoir lieu au second tour. Merci beaucoup. Yann, donc on le voit, hein, quand même, pour beaucoup de nos auditeurs, la France est déjà ingouvernable. Ouais. Ça donne quoi sur l'appli RMC, Rémi?
Rémi nous dit la même chose. Si la France est ingouvernable, c'est surtout à cause des formations politiques françaises qui ne font que de l'opposition pour de l'opposition. Ce n'est pas mon idée, alors je vote contre. Oui, notre pays est ingouvernable et il le restera tant qu'il y aura cette attitude.
Alors, on vous a quand même posé la question, la France va-t-elle devenir ingouvernable?
Oui, sans aucun doute, pour 67% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Donc on est quand même sur une belle majorité. On va continuer à parler d'élections avec cette question que vous avez peut-être posée ces derniers jours. Et toi, tu votes pour qui? Mais cette question, est-ce qu'on a le droit de la poser au bureau? Est-ce qu'il faut demander à ses collègues pour qui ils votent? Est-ce que vous, par exemple, vous dites à vos collègues de bureau, à vos proches, pour qui vous votez, ou est-ce que ça doit rester secret? On en parle dans un instant avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 32, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, avec Pierre Rondeau, Juliette Briens et Fred Hermel. Et tout de suite, on va s'intéresser à la question du jour. Et toi, tu votes pour qui? C'est la question que nous sommes très nombreux à avoir posée ces derniers jours à nos proches, nos amis ou encore nos collègues de bureau. Et si ça peut être sympa de débattre, bien sûr, de politique avec ses collègues, ça peut aussi déboucher sur des situations compliquées. Rémi, est-ce que le Code du travail nous interdit ou nous autorise comme ça à parler politique au bureau?
Il nous autorise à parler politique au bureau. Sur son lieu de travail, un salarié bénéficie de la liberté d'expression. C'est pas juste justement une expression, c'est un principe protégé par la Convention européenne des droits de l'homme et par le Code du travail français. Un licenciement justifié par une prise de position politique est considéré comme non avenu. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Elle peut même conduire à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour l'employeur. Il y a toutefois certaines limites. Afficher ses opinions politiques, en fait, ne doit pas nuire à l'image de l'entreprise. De la même façon, le prosélytisme est interdit. Un salarié n'a pas le droit de déposer des tracts politiques ou encore d'envoyer un mail à tous ses collègues, à toute son entreprise, pour afficher ses opinions politiques. Selon un sondage en ligne réalisé en 2022, 2022 par LinkedIn, 34% des personnes interrogées affirmaient être prêtes à dissimuler leurs véritables opinions politiques pour se faire mieux accepter de leurs collègues. Quand 51% déclarent possible de parler politique au bureau avec diplomatie, seulement 13% des salariés affirment pouvoir le faire sans problème.
Alors, Pierre Rondeau, est-ce qu'il faut dire à ses collègues de bureau pour qui on vote ?
Dans le sujet, on est d'accord que c'est collègues, hein, parce que vous citiez amis, proches, voisins, cousines. Collègues, amis, forcément, on peut le dire, parce que je pense qu'on est amis avec quelqu'un qui nous ressemble. Donc forcément, de fait, même avant même qu'on se le dise, on devine à peu près quels seraient.
Vous n'avez que des amis qui pensent comme vous.
Ah bah de fait, je le conseille. Alors faut dire que je suis parisien et quand vous voyez les résultats à Paris, il y a une très forte majorité qui penche à gauche et mes amis effectivement parisiens.
Tu ne pourrais pas avoir un ami de droite.
Alors. C'est toute la question que je mets en avant, que je pose, par rapport au sujet sur collègues ou amis. Je l'accepterai si dès le départ c'est acté.
D'accord.
Si dès le début, un peu comme ce qu'on fait ici, nous sommes collègues, et nous devinons, nous connaissons nos opinions politiques, sans qu'elles soient forcément déclarées, on les perçoit.
Je crois que je devine les tiennes sans aucun problème.
Voilà. Donc, de fait, les connaissant dès le départ, avant d'entamer une relation, je sais à qui j'ai affaire, je sais à quoi je dois m'attendre. Okay. Donc, j'ai pas été dérangé. Okay. Si par contre, je deviens ami, je suis collègue et avec quelqu'un que j'apprécie, et que plus tard, je découvre qu'il vote Zemmour, je vais être choqué.
D'accord. Mais alors,
donc je préfère
les collègues de bureau.
Dès le début. Dès le début, si quelqu'un, on se rencontre, et on se dit voilà, je vote truc, je vote ça, je suis ça. Ok, je le sais. Donc peut-être que derrière, je vais avoir un ressenti, un préjugé. Je vais construire un truc positif ou négatif, mais je le saurai dès le début. Je vais donner un exemple. Moi, je suis prof et prof d'éco à la fac. Ouais. L'économie, c'est une science très politisée.
Oui.
J'assume totalement dire à mes étudiants dès le premier cours, dès la première heure, sachez que je suis de gauche. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne serai pas d'accord avec vous si vous êtes de droite ou libéral, mais sachez-le, je le suis. Derrière, vous pourrez me critiquer, vous pourrez dire le contraire, il y aura un débat, mais moi, vous le savez. Si dès le départ, on le dit, c'est très bien. Si c'est caché, je suis gêné.
Juliette Briens, est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est dangereux de parler politique au bureau ?
Alors déjà, c'est très, très intéressant ce qu'a dit Rémi. Parce qu'il ne faut pas que l'opinion politique de l'employé puisse nuire à l'image de l'entreprise.
Mmh.
Alors ça, c'est très très marrant, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que quelqu'un qui affiche voter Macron, ou même LFI ou PS, ça ne nuira jamais à l'image de l'entreprise. On sait très bien qui va nuire à l'image de l'entreprise.
Peut-être
de se constater que nous n'avons pas tous le luxe, évidemment, d'afficher nos opinions politiques au travail, parce que quand on vote plus à droite, en gros, que Macron ou que LR, eh ben en fait on court le risque de la mort sociale. Et moi, tous les jours sur Instagram où des abonnés m'écrivent et des gens m'écrivent et me disent Juliette, je suis tellement isolée dans mon travail, ils votent tous Macron, ils votent tous LFI, j'aimerais pouvoir parler, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas envie de me faire virer.
Donc,
c'est très bien d'afficher peut-on parler de ses opinions politiques au travail. Tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, tout le monde ne peut pas le faire aujourd'hui. Pourtant ils sont 40%, hein, donc je veux dire ils sont dans vos villes et dans vos campagnes, hein. Regardez bien vos collègues autour de vous, parce qu'à mon avis, il y a deux fois
partout, comme disait.
Mais dans vos villes et dans vos campagnes. C'est plutôt une position sur laquelle je peux te rejoindre. Il y a 10 ans de retard. Aujourd'hui, c'est totalement assumé.
Mais tu rigoles.
Il y a 40% l'extrême droite. Il y a 40%.
Je peux te parler d'histoires cauchemardesques, de gens qui se sont fait virer d'entreprises qui épient les réseaux sociaux de leurs employés pour voir quel tweet ils repostent, etc. Tu rigoles.
On vient de me raconter ça, en fait, quelqu'un qui me dit au bureau, en fait, la personne a des collègues qui s'amusent à aller regarder, en fait, les comptes des réseaux sociaux de ses collègues pour aller voir qui est-ce qu'elle a liké, pas liké, pour savoir après pour qui elle vote. Et ça, c'est vrai que c'est un peu délicat. Et là où Juliette a raison, c'est que c'est pas tout à fait la même chose d'afficher au bureau que tu votes pour Reconquête ou d'afficher que tu votes pour Emmanuel Macron ou Glucksmann. C'est pas du tout. Tu vas pas être vu de la même manière.
Même
et ça, Juliette, elle a parfaitement raison. Et quand tu dis effectivement, l'extrême droite, c'est aujourd'hui 40%, mais n'empêche que, dans le milieu du travail ou au bureau, personne au bureau, je n'ai jamais entendu.
C'est pas parisienne au centré?
Peut-être, mais je pense pas qu'au bureau, on affiche clairement. En fait, tu l'affiches quand, grosso modo, t'as à peu près les mêmes avis que tout le monde et que c'est des avis qui ne gênent pas, entre guillemets. Dès que t'as un avis qui est un peu plus extrême, tu évites à l'afficher. Ouais. Si tu veux,
d'ailleurs,
faire
c'est
bien
ce que
voir.
J'ai fait, si je peux
si
me
ton
permettre.
Patron, il est, si ton patron, il est LR pur et dur et que t'es LFI, je pense que tu vas pas aller clamer que t'es LFI. Et si ton patron, il est très à gauche, tu vas éviter de dire que t'es Reconquête. Enfin, c'est une question de bon sens. Alors que si t'es,
si t'es MoDem, par exemple, oh, bah, ça gêne pas.
Ah, mais c'est l'enjeu du centré.
Je vais te donner un truc. Au foot, on m'a souvent demandé quand j'étais journaliste sportif, qui j'avais comme club favori. Est-ce que j'étais plutôt PSG ou M? Je disais souvent, je suis Guingamp. Mais que ça, j'avais la paix. Personne vient de t'embêter si tu votes, si t'es fan de Guingamp. Ou si t'es fan de Nancy. En revanche, si t'es PSG ou Marseille, on va venir t'embêter. Bah, là, c'est un peu pareil. Si t'es Reconquête, LFI, mettons, on va un peu plus t'embêter que si tu dis, non, mais moi, je suis centriste.
Bon,
c'est mon idole. Bon, voilà. On va te changer. Fred Hermel.
Moi, je suis Racing Club de Lens.
Oui, d'accord.
Ouais, l'ennui.
Alors, il y a une très vieille expression française, vivons heureux, vivons cachés.
Oui.
Ah, ça, j'ai très vite compris dans la politique. Entreprise. Ah, bah si. Mais non, mais je l'adapte à la politique.
Ah, mais très bien.
Parce qu'en plus, il y a des évolutions. C'est-à-dire qu'à un moment, dans ta vie, tu peux voter pour quelqu'un et changer d'avis un an après, à une élection suivante.
C'est vrai.
Parce qu'à un moment dans ta vie, tu sais, parce qu'il y a des, à un moment, il y a des votes, par exemple, des votes. Moi, j'ai connu une dame qui votait un jour, a voté Front National parce qu'elle venait de divorcer, elle était énervée, elle était contre tout le monde et elle s'était retrouvée dans un discours anti. Voilà, elle était dans une période de dépression, elle était anti et donc ça lui a fait du bien alors qu'elle n'était pas Front National. Je parle du Front National de Papa Le Pen. Hein. Donc je pense qu'on peut pas être marqué par ça. Après, moi, mon milieu, c'est le milieu du journalisme et là, je considère que d'un point de vue éthique, on ne peut pas afficher ses opinions politiques. Parce que tu ne peux pas.
On est décompté.
Ah ben non, déjà tu es décompté, mais en plus tu ne peux pas. Oui, c'est-à-dire que toi tu es journaliste.
Là je parle au bureau. Hein.
Ben, au bureau, mais moi, dans mon cas personnel, il se trouve que je suis journaliste, donc je ne veux pas qu'on sache pour qui je vote, parce que je ne voudrais pas que mon travail en tant que journaliste soit dénigré.
Personne ne dit.
Mais enfin,
tu donnes tes opinions tous les jours dans l'émission.
Mais personne ne sait pour qui j'ai voté.
Oui, enfin, on connaît à peu près tes idées.
Fred, tu t'affiches ouvertement supporter du Real. Forcément, on va te dire en tant que journaliste sportif.
Non,
mais arrête, le Real Madrid.
Non, mais sérieux. Et sincèrement, moi, je pense qu'un journaliste ne peut pas afficher ses opinions politiques parce qu'il doit. Au quotidien, fréquenter des politiques et les interviewer. Donc, si tu affiches, et en plus, t'es considéré comme, c'est vrai, par l'ARCOM, t'es décompté, etc. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, au sein de ton entreprise, c'est comme ton salaire. Moi, on a fait parfois le sujet. Ouais. Je pense que le salaire, l'opinion politique, ça doit rester pour chacun, parce qu'à un moment, ça se retourne contre toi.
Très rapidement, Juliette.
Alors, non, mais en fait, c'est juste pour dire que moi, je l'ai vécu. En fait, j'ai été cadre chef de projet dans une grande entreprise française que je ne citerai pas pour pas les afficher. Et j'avais une grande équipe. Ils étaient tous de gauche, je le savais. Et je m'entendais merveilleusement bien avec eux. Je suis partie, ils n'ont jamais su pour qui je votais, ni même la moindre de mes opinions politiques, parce que je ne pouvais pas le dire.
Ils ont
découvert ça à la télé, et je n'ai jamais eu de nouvelles depuis. Voilà. Okay. Le sort qui me réservait si je leur avais dit pendant que j'y travaillais.
Oui. Alors, on a Jonathan en ligne, qui est conducteur de car à Nantes. Bonjour, Jonathan.
Bonjour, Estelle. Bonjour à tous.
Et Jonathan, est-ce que vous dites à vos collègues pour qui vous votez?
Bien sûr, bien sûr. Et je vois ça comme un combat aujourd'hui. En temps normal, le clivage droite-gauche, voilà, pas de souci, on vote à droite, on vote à gauche, moi ça me va. Aujourd'hui, non, on vote pour sauver notre pays, on vote pour que notre pays ne sombre pas dans une période noire.
Donc je vois voilà. Pour qui vous votez.
Pour moi, le Rassemblement National, on pourra le présenter comme on veut, ça reste le Rassemblement National. Ça
ok, mais droite. Mais Jonathan, par exemple, est-ce que j'imagine que voilà à Nantes comme ailleurs, hein, le Rassemblement National a fait des scores absolument stratosphériques, hein, parce que il arrive en tête de 94% des communes de France. Donc j'imagine que vous avez forcément des collègues qui votent Rassemblement National ou encore Reconquête. Vous les mettez au banc ces collègues ou vous discutez quand même avec?
Non, je les mets pas au banc. Alors pour Nantes, ils ont fait malgré tout un petit score. Ils doivent être à 10 ou 11%, Barbera. Ouais. Voilà, les villes autour, par contre, ouais, c'est moins fun, évidemment. Non, je les mets pas au banc, on discute, et moi, mon credo, c'est que si j'arrive à en faire seulement changer un d'avis, si tout le monde fait comme moi, ben, on a une chance de se sauver de ce qui nous attend.
Voilà. Donc en fait, vous ne les excluez pas, au contraire, vous discutez, vous essayez d'avoir un débat constructif. Ah, merci beaucoup, Jonathan, en tout cas, d'avoir été avec nous. On a des messages, Rémi. Alors, est-ce que nos auditeurs et nos téléspectateurs disent pour qui ils votent ou pas?
Mais non, il y a Surf qui nous dit notamment, moi personnellement, je pense comme Fred Hermel, pour vivre heureux, vivons cachés. On peut discuter politique au travail, mais d'une manière très diplomate et sans aller trop loin. pour, en affichant ses opinions.
Voilà. Wow, mais alors c'est embêtant comme débat, attends. Ça veut dire que ça ne doit pas débattre très fort, quand même. Ouais. Allez, on vous a posé la question, justement, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il dire à ses collègues pour qui on vote?
Eh ben, c'est révélateur de ce que je viens de dire comme type de message, et comme la plupart des messages qui nous sont parvenus, c'est non pour 73% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux. Vaut mieux pas en parler.
Et parce que ça se retourne contre toi, quand il arrive. Quel que soit le parti pour lequel tu votes, ça se retourne contre toi à un moment ou à un autre.
En fait, le bureau, c'est le repas de Noël, quoi. Faut pas parler, politique.
Vous êtes ennuyeux, dis donc. Chamaillez-vous, engueulez-vous.
Bah non, mais nous, on peut en parler, en tout cas, dans Estelle Midi, on ne s'en prive pas. Dans un instant. Le coq, Rémi.
Le coq, vous avez désormais 5 minutes, l'alerte vient de tomber, 5 minutes pour vous inscrire, pour tenter de remporter vos places pour le match France-Pays-Bas le 21 juin prochain. Dans le cadre de l'Euro 2024, on vous offre évidemment le voyage à Leipzig, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC avant le match et deux places pour cette rencontre. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro par SMS au 7-32-16, Euro par SMS au 7-32-16.
Allez, à 13h, prochain débat dans Estelle Midi, 6 Français sur 10 en faveur d'une réduction des aides sociales. D'accord, pas d'accord. Et puis Anthony Morel qui viendra nous parler d'élections dans un instant sur le plateau. Sachez qu'en Grande-Bretagne, il y a un candidat IA. Il y a un candidat de l'intelligence artificielle. Il va nous expliquer comment ça se passe. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, il est midi 49 et il est temps d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Alors, je ne suis pas sûre, Anthony, que vous allez nous parler d'un progrès. À mon avis, rien n'est moins sûr. D'ailleurs, toujours est-il que on va parler des élections et au Royaume-Uni, certains électeurs vont devoir se poser la question de voter pour une personne humaine ou pour une intelligence artificielle, et ce n'est pas une blague.
Absolument. Au Royaume-Uni aussi, il y a une élection bientôt. C'est les élections générales qui se tiennent au mois de juillet. Et il y a un candidat un petit peu curieux dans ces élections, c'est AI Steve. AI comme Artificial Intelligence. Steve, l'intelligence artificielle. On peut voter pour un candidat IA. Alors, je le décris pour ceux qui nous écoutent. Hein, il prend la forme d'un avatar.
On dirait,
avatar.
Animé, on dirait le mec de là-haut.
Oui, sais, exactement. Un personnage de Pixar, un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un homme, veste bleue, chemise blanche, la mèche au vent. Voilà, plutôt beau gosse qui discute avec vous. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez aller sur une application. Vous allez pouvoir écouter.
Écoutez. Standing to be MP for Brighton and Hove. I'd love to know what policies you'd like me to adopt and what you think needs to change.
Donc là, on peut discuter avec lui. Bon, je vais pas le faire là, mais en gros, en langage naturel, vous allez pouvoir soit lui poser des questions sur son programme, soit lui faire des suggestions. Et il va les prendre en compte. Donc voilà, c'est le candidat. Alors vous allez voter sur le bulletin de vente, ce sera... Ah oui, alors il parle beaucoup par
mais
contre.
Mais on peut vraiment voter pour lui?
Alors bien sûr, on peut voter pour lui.
Il y aura un bulletin...
Il y aura un bulletin AI Steve. Alors après, derrière, tu as l'humain...
Qui va le payer, ce bulletin?
Comment ça, le payer? Alors, c'est ça, je vais jusqu'au bout du raisonnement. En fait, ce personnage virtuel, en fait, c'est une modélisation d'une vraie personne. Un monsieur qui s'appelle Steve Endicott, c'est un homme d'affaires britannique. Il en a marre de la politique. Il s'est dit, je vais essayer de créer un truc un petit peu différent. Et donc, il a créé ce personnage virtuel. Donc, vous voterez pour l'IA, mais c'est lui qui ira à l'Assemblée pour voter parce qu'il faut quand même un humain. On va pas envoyer un robot pour réaliser les votes. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, la question derrière, c'est quoi son programme? Parce que, sur quelle plateforme il va être élu? Alors, c'est là que, pour moi, le bât blesse. C'est-à-dire qu'en gros, il va écouter les suggestions qu'on lui fait quand on discute avec lui et l'IA va agréger les bonnes idées, les combiner et en faire une sorte de programme. Donc en gros,
c'est ce qu'a essayé de faire Macron, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. C'est le en même temps, mais c'est le en même temps absolu.
Mais ça n'a pas marché.
Bah, ça a pas. Enfin, en tout cas, on voit que ça fonctionne plus tellement maintenant.
At the same time.
Voilà, c'est ça. At the same time, c'est exactement ça. Mais alors, c'est un peu le problème, c'est un candidat qui, à la fin, va pas vraiment avoir de colonne vertébrale.
Tu vois, si je propose des choses UBS, il va les appliquer.
Alors, non, oui, parce qu'il en fait, il
agrège. C'est-à-dire que si t'as un million de personnes
disent
qui proposent
tous les roues, il fera.
Alors, parce qu'il y a une petite mécanique supplémentaire.
C'est vraiment qu'à vous.
Il y a un petit mécanisme supplémentaire qui est qu'en fait il y a des centaines de validateurs humains qui regardent quand même si c'est des trucs de bon sens, s'il n'y a pas des gens qui essayent de faire n'importe quoi, et c'est à partir de ça que les politiques vont être acceptées ou pas. En tout cas, c'est très sérieux, il va être sur les bulletins de vote et donc on verra ce que les Britanniques en pensent. Pour l'instant, sur les premières propositions, j'ai regardé un petit peu sur le site, c'est quand même une IA plutôt gauchiste, hein. Donc il propose de diviser par deux les frais d'entrée à l'université, d'aider l'accès aux logements sociaux, enfin c'est plein de mesures comme ça.
C'est bien.
Oui, non mais je dis pas que c'est plus à gauche que libéral, on va dire comme ça. Voilà. Oui.
Ça ressemble quand même à un gros coup de com.
Alors c'est aussi un coup de com, surtout que le monsieur qui a créé ça, c'est le patron d'une entreprise d'intelligence artificielle, donc il se fait un petit coup de pub au passage. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est pas la seule initiative dans ce genre. Un peu partout dans le monde, on a vu émerger des candidats intelligence artificielle. Au Danemark, par exemple, lors des dernières élections, il y a eu le parti synthétique, un parti généré. Alors c'est là encore, hein, c'est une IA en fait qui a récolté et agrégé les idées de plein de petits partis politiques un peu inconnus depuis les années 70 et qui a essayé d'en faire un truc un petit peu cohérent.
Alors au Danemark, ça va être plutôt de droite vu leur loi immigration.
Je crois qu'elle était un peu gauchiste aussi.
Ah bon,
ça a été créé par un collectif d'artistes.
Donc elle n'est pas passée alors.
Plutôt... Non, ils sont pas passés. Ils sont pas passés. Alors au Japon, lors des élections municipales de 2018, dans la ville de une ville de 150 000 habitants, la ville de Tama, il y avait une IA aussi. Alors c'était un portrait robot d'ailleurs sur les affiches. 9% des voix quand même. Hein, donc c'est pas mal.
Quand même.
9% ont voté pour cette IA, avec l'idée aussi que ben voilà, l'IA, elle va prendre des décisions qui vont être plus froides, plus rationnelles, elle est complètement incorruptible. Ce qui est un petit peu ambitieux de dire ça, parce que l'IA n'est jamais complètement neutre, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Derrière, il y a toujours des humains, et donc des biais humains qu'on va retrouver à un moment ou à un autre. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, peut-être que ce sera, on s'en sortira mieux finalement si on laisse le pouvoir à des machines, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Hein.
Oui, mais on se demande, c'est pas forcément une mauvaise non plus. Ne sais plus, Anthony.
Il y a eu un sondage en France, il y a 25% des répondants qui ont dit qu'ils seraient prêts à laisser des algorithmes gouverner à la place des hommes politiques. Pour vous dire.
25%, t'es au deuxième tour. Hein.
Bah voilà.
Merci beaucoup, Anthony Morel, tous les jours. 12h50, on n'arrête pas le progrès. On parle de quoi demain?
Demain, je suis pas là. Je ne sais pas de quoi on parle.
Et vous n'avez même pas préparé une chronique pour votre successeur?
Bah, il va se débrouiller comme un grand. Mais ce sera très bien, j'en suis sûr.
En fait, c'est l'IA qui le fait.
En tout cas, merci de m'avoir prévenu. Bon. Eh ben, merci beaucoup, Anthony. Merci quand même. Vous pouvez quand même écouter Anthony en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, 6 Français sur 10 en faveur d'une réduction des aides sociales. D'accord, pas d'accord. On vous attend au 3216 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.